Alors, on a une belle troisième heure pour vous. On va vous raconter l'histoire de Martine, qui a combattu un cancer qui a été vraiment lumineuse jusqu'à la fin. C'est une histoire extrêmement touchante. On va vous raconter l'histoire de Charles, un joueur de baseball québécois qui s'accroche à son rêve de jouer dans les ligues majeures. C'est une très belle chronique d'Alexandre Pratt. Donc, une autre belle histoire. On va parler avec le chef de Canisataké, parce qu'il y a eu un gros party à Canisataké en fin de semaine, et puis le chef n'est pas content et il dit, écoutez, là, il faudrait qu'on récupère notre corps de police. Alors, il va venir nous présenter ça en onde, monsieur Simon, qui est un chef que j'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de prestance, il a beaucoup de sagesse, et en même temps, on sait qu'il doit composer avec des éléments pas faciles dans sa communauté. Pas besoin d'en dire plus, non, je pense que vous comprenez. Mais d'abord, Luc Lavoie.
Salut Bernard. On se rapproche de plus en plus de la vie normale.
Oui.
Alors, il y a peu de temps, là, dans la dernière heure, on a annoncé que la frontière Québec-Ontario sera rouverte mercredi. Je vous rappelle que ça fait depuis le 19 avril qu'elle était fermée. Pendant un temps, d'ailleurs, la police a exercé une grande présence et c'était rendu beaucoup plus...
C'est quasiment symbolique, hein?
C'était quasiment symbolique au point où on en était, mais effectivement, mercredi, ça va être chose du passé. Autre truc, la Ligue canadienne de football reprend ses activités.
Ben oui.
Le 5 août, on ne sait pas encore combien de personnes sont admises dans le stade.
Non.
Mais on sait que chaque équipe va jouer 14 matchs. Les détails, je ne les ai pas encore, mais on apprend aussi donc une chose qui revient à la normalité.
Et on va jouer la Coupe Grey, écoute bien ça.
À Hamilton.
La 108e Coupe Grey, le 12 décembre. Ça m'a dit, ça s'appelle du football canadien, c'est-à-dire en température nordique.
Ce que certains appellent le snowball.
Écoute, mon gars, j'ai hâte de voir, le 12 décembre.
Maintenant, il y a aussi une sorte de nouvelle un peu plus, pas négative, mais inquiétante. C'est qu'en Angleterre, le premier ministre Johnson a annoncé que le déconfinement, la dernière étape du déconfinement, lequel devait prendre fin de façon à peu près définitive le 21 juin, il a repoussé ça de 4 semaines en raison du fameux variant Delta.
Qui est apparu en Inde au départ,
mais qui a pris presque toute la place en Angleterre et dans certains autres endroits.
Es-tu inquiet, toi, Luc, quand tu vois ça? Tu dis-tu, mais ça, j'aime pas ça, parce que ça prouve que le variant Delta pourrait nous ramener en arrière?
C'est évident que j'aime pas ça, Bernard. C'est bien évident que j'aime pas ça. Mais nous, au rythme de vaccination, tôt ou tard, est-ce que oui ou non ces vaccins-là marchent? Moi, ce que je sais, là, à force d'écouter des scientifiques, là, c'est que, en tout cas, dans le cas des ARN Messenger, c'est probablement les meilleurs vaccins jamais développés dans l'histoire de la vaccination remontant à Pasteur.
Là, tu parles des Pfizer et des Moderna, là.
Voilà, les ARN Messenger. Quant à l'AstraZeneca, écoute, à part tous les petits problèmes, blabla, c'est aussi un bon vaccin. Alors, à un moment donné, ce qui s'est passé en Angleterre, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de détails. Je pense qu'ils ont eu des problèmes de régionalisation dans la vaccination, entre autres. Donc, grande concentration dans les grands centres, moins dans les plus petits centres. Peut-être que c'est là qu'il y a des éclosions, mais enfin, je n'ai pas les détails, j'irai pas plus loin que ça.
D'accord.
Alors là, cette semaine, ça a commencé la semaine dernière. C'est le grand bal diplomatique orchestré en majeure partie par les Américains. Ça a commencé par le G7 à Londres, et là, ils ont défini un plan de bataille pour que le monde soit prêt en moins de 100 jours face à une nouvelle pandémie. Et on a demandé une enquête plus approfondie de l'Organisation mondiale de la santé sur l'origine du virus en Chine. Jusque-là, tu sais, c'est rien pour nous jeter à terre, là, c'est bon. Mais ce qui est vraiment le cœur de tout ce qui se passe, c'est que le voyage de M. Biden, qui a commencé donc dans la région de Cornwall, en Angleterre, pour le sommet G7, là, présentement, il est à Bruxelles, à l'OTAN. Demain, il va être encore à Bruxelles pour des rencontres avec les dirigeants de l'Union européenne. Et, da-da! Mercredi, c'est le grand sommet entre Biden et Poutine.
À Genève, si je me trompe pas.
À Genève. Et, évidemment, tout ce qui précède ce sommet-là est quelque chose que Je me souviens pas d'avoir vu ça, Bernard.
Comme une partie d'échecs comme... au ralenti.
Ouais, hein? Ouais, une partie d'échecs au ralenti, puis quelque chose de, on se nargue l'un l'autre. Je te tiens par la barbichette, blablabla. Bla, bla. Ouais, ouais. C'est vraiment un peu particulier. Les Américains ont forcé la main de plusieurs partenaires européens qui sont, tu sais, par exemple, l'Allemagne et Macron dans son style très, très sophistiqué pour la langue, qui disent, tu sais, nous, on n'est pas hostile à la Chine. On veut pas vraiment de position d'hostilité, d'une nouvelle guerre froide et patati et patata. Alors moi, bon, il continue sur sa lancée, il est arrivé à l'OTAN aujourd'hui, là, il leur a dit qu'il fallait revitaliser les alliances, donc l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ceux qui ne le savent pas, l'OTAN, ça a été créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour faire face à ce qu'on appelait le pacte de Varsovie, c'est-à-dire les Soviétiques et leurs États satellites, ou leurs États vassaux, appelons-les comme on veut. Et bon, l'OTAN, à un moment donné, quand le mur de Berlin est tombé, hein, il y avait beaucoup de gens qui disaient, ben, pourquoi on garde l'OTAN? C'est pourquoi on garde l'OTAN. Et pire encore, et ça, je pense que c'est une erreur pour laquelle les Américains payent présentement, et c'était sous Clinton, ils ont décidé de donner de l'expansion à l'OTAN. En faisant quoi? En allant inviter à devenir membre des pays de l'ancien empire soviétique.
L'ancien pacte
Roumanie,
de
Roumanie. Ouais, ouais. Là, on veut avoir l'Ukraine, ceci, cela. Les Russes voient ça comme un geste immensément hostile. Et là, ils vont... Alors, pendant tout son séjour en Europe à l'heure actuelle, Joe Biden dit « Les États-Unis sont de retour à table, on va faire ce qu'il faut. Le grand plan de nouvelle route de la soie des Chinois, c'est-à-dire ce plan mondial de construction d'infrastructures de dernier cri, on va les contrer en mettant notre argent sur la table. »
Un peu comme il le fait... Un peu comme il le fait avec les vaccins, hein?
C'est un peu ça, comme il le fait avec les vaccins, mais Bernard, je trouve que ce qui se passe là, moi, je trouve pas ça très rassurant.
Mais qu'est-ce que tu crains, Luc, là?
Est-ce
que
je crains
tu crains une guerre?
Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup peur que la Chine, à un moment donné, dise, bon, cette année, là, tu vas te décoller de l'environnement de Taïwan puis de Hong Kong, puis si tu le fais pas, j'y vais. Et là, c'est là qu'on va voir jusqu'où ça peut aller. Mais au-delà de tout ça, Bernard, faut jamais oublier que les États-Unis, c'est un pays immensément endetté, mais comme ça dépasse l'entendement, alors que la Chine n'a pour ainsi dire pas de dette, et non seulement ça, elle a des montagnes de milliers de milliards de devises étrangères, comme on n'en a jamais vu. À ce jeu-là, les Américains ont-ils, parce qu'ultimement, quand on regarde l'histoire des grands empires qui s'effondrent, à l'effondrement ou au moment où ça tombe, c'est parce qu'il y a un problème économique. Ce n'est pas qu'un problème guerrier ou de gouvernance. C'est quand t'es au bout de tes scènes, puis on dirait qu'à l'heure actuelle, les Américains pensent qu'ils sont capables à ce rythme-là d'emprunter par milliers de milliards de dollars, puis on est partout, puis on est de retour, puis on est tout ça. Le monde a changé. Moi, je comprends pas pourquoi les Américains ont pas lancé une initiative pour dire on va restructurer ou même éliminer certaines organisations qui avaient été créées dans un climat qui n'existe plus, celui des années 50, des années 60. On va voir, est-ce qu'on a besoin de l'OTAN? Est-ce que c'est le bon véhicule? Est-ce qu'il y a d'autres moyens par lesquels on pourrait assurer notre place dans l'univers? Mais il faut qu'ils acceptent au point de départ qu'ils n'auront plus jamais l'hégémonie qu'ils ont eue dans l'après-guerre. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup dans leur... C'est très, très... Je sais pas, j'ai l'impression, Biden, qu'on vit dans un film de l'ancien temps. Là. Je vois autour de lui une équipe, Jake Sullivan, son National Security Advisor, Anthony Blinken, son ministre des Affaires étrangères. Ce sont des gens extrêmement sophistiqués. Quand ils donnent des entrevues, on fait « Wow, ça nous change de Trump ». Mais sur le fond, ils se sont déjà trompés, hein. C'est sous des démocrates qui étaient brillants, McGeorge Bundy, qui était le chief of staff de la Maison-Blanche, qui était avant ça le président de l'Université Harvard. Il s'était entouré de ce qu'on avait appelé the best and the brightest Canadiens. Mm-hmm. Mais ils ont fait quoi? Ils l'ont emmené au Vietnam. C'est ça qui est arrivé. Alors moi,
ils devraient se rappeler ce que Clausewitz nous a enseigné, ce que j'ai appris dans mes cours d'études stratégiques. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens.
Et voilà, c'est exactement ça.
Et toi, ce que tu dis, c'est la politique actuelle de Biden ressemble à une politique du temps où les États-Unis étaient beaucoup plus dominants qu'ils ne le sont présentement. En fait, ce que tu dis, c'est que je ne suis pas certain que les États-Unis ont les moyens de continuer à mener une politique voilà. d'il y a 20 ou 30 ans.
Exactement, exactement. Il faut qu'ils prennent acte de la nouvelle réalité. Je veux dire, l'appareil manufacturier incroyable construit par la Chine, l'appareil construit par la Chine et qui fait qu'ils sont les manufacturiers du monde entier, ça s'effondrera pas. Puis les infrastructures qu'ils ont bâties, qui sont flambant neuves à comparer avec des installations de 75 ans aux États-Unis, ça s'en ira pas.
Ouais, mais Luc, c'est quoi?
Les milliers de milliards de devises étrangères entreposées quelque part, ça disparaîtra pas.
Non, non, alors, quand tu disais tout à l'heure, les États-Unis sont très endettés, tu as raison, et le principal créancier des Américains,
c'est la Chine.
C'est les Chinois. C'est eux autres qui détiennent les Treasury Bills, puis la dette américaine, c'est d'abord entre les mains des Chinois qu'elle se trouve. Alors, ça leur donne un rapport de force incroyable. Mais je veux juste
dire... Je crains pour Biden qui va se faire planter par Poutine, qui semble de plus en plus de mauvaise humeur, qui dit aux Américains, OK, vous voulez protéger Navalny, mon opposant, puis son organisation? Je déclare que c'est une organisation extrémiste, puis on les bannit. Puis là, il dit aux Américains, ah, vous aimez pas ça? C'est vous! Moi, j'ai pas aimé quand j'ai vu les images de l'insurrection au Capitole. Vous avez pas de leçons à nous donner, vous, là. Comprenez-vous, votre racisme puis vos bebelles, vous pouvez, tu sais, laisser faire, là, parce que nous autres, il faut voir Poutine comme le joueur géopolitique qu'il est. Ouais. Écoute, il est devenu un pivot central de ce qui se passe au Moyen-Orient.
Ouais. Puis ce qu'il faut regarder, là, Luc, là, parce qu'on l'a vu, là, il y a eu des rapprochements entre la Russie et la Chine. Là. Moi, ce que je crains, parce que Poutine n'a pas les moyens économiques de tenir tête aux États-Unis. C'est un
Mais
bon
le rapprochement dont tu parles, c'est très, très important,
ben,
ce que tu soulignes là.
Faisons attention que Poutine ne serve pas d'avant-garde à une partie stratégique dirigée depuis Pékin. C'est une alliance entre Poutine et Beijing, là. C'est ce qu'il faut craindre, là. C'est ça qu'il faut. Il faut être très, très. Il faut faire très attention à ces deux-là.
Il faut faire très, très attention à ces deux-là. Et on n'est pas. C'est pas nécessaire qu'il y ait une espèce de sommet de l'amour entre Xi Jinping et Poutine. La réalité, c'est que les deux ont besoin l'un de l'autre et qu'ils sont en train de prendre une place sur l'échiquier mondial qu'on n'avait pas vu depuis très, très, très longtemps. La place qu'ils sont en train d'occuper est beaucoup plus grande que l'ancien empire soviétique que j'aime occuper parce qu'il n'y avait pas d'argent.
Alors, oui, effectivement. Luc, on va y revenir à ça parce que la question qui vient après ça, c'est, OK, si on n'est pas dans une politique d'affrontement, est-ce qu'on est dans une politique de containment, là, c'est-à-dire on essaie de contenir, et si oui, comment? Mais je ne veux pas ouvrir cette discussion-là parce que je veux parler de Netanyahou.
C'est une belle discussion, puis on devrait l'avoir un jour. Parlons de Netanyahou.
Ben oui, parce que ça, c'est
ça
gros.
Ça fait 12 ans qu'il était premier ministre, puis il avait déjà été 5 avant ça. Écoute, il a fallu qu'il fasse une alliance entre l'extrême droite, le centre, la gauche, puis un parti arabe. OK, t'as du monde là-dedans. Le nouveau premier ministre de Bennett, lui, c'est un gars qui croit dans la colonisation juive en territoires occupés. C'est toute une affaire disparate. Puis en ayant mis tout ce monde-là ensemble, Bernard, ils ont réussi à le sacrer dehors par un seul vote.
Un vote, Luc.
Un vote. C'est assez incroyable. Et là, il a dit que, de toute façon, Netanyahou, il n'a pas lâché de lousse de l'Est du tout, du tout, du tout. Là.
Il dit qu'il va revenir.
Puis que c'est un dangereux gouvernement de la gauche, puis babati, patata, patati, patata. Puis déjà, il y a un groupe d'ultra-orthodoxes juifs qui sont contents de ce gouvernement-là. Ils veulent le tester, ils vont aller manifester dans Jérusalem-Est. Puis ce qui est
dans un secteur palestinien.
Dans un secteur palestinien. Puis vont-ils s'approcher de l'esplanade des mosquées? Est-ce que ça va reprendre? Est-ce que ce gouvernement-là va réussir à traverser? Quand ils vont se retrouver avec des problèmes fondamentaux et idéologiques, là, comme la colonisation juive, puis ces questions-là, est-ce qu'ils vont tenir ensemble? Probablement pas. Puis Netanyahou va rester là, puis il va dire « Moi, je suis là ».
Netanyahou est en embuscade.
Voilà. Netanyahou, c'est pas un con. C'est un être assez froid et assez, ma foi, cynique. Mais d'un autre
accusé
côté, c'est
de corruption. Accusé de corruption.
Ben oui, puis là, présentement, une des raisons pourquoi il voulait tant s'accrocher à son poste, c'est que ça lui confère une immunité qu'il va perdre. Puis là, ces procès-là en corruption vont aller de l'avant. Enfin, c'est pas une belle situation pour Israël. On va voir où ça va nous mener. Mm. Mais en même temps, le fait que Netanyahou soit disparu du décor, On peut dire que c'est une bonne chose, Bernard. On peut dire que ça suffit, la provocation, puis tout ça. Puis on peut dire en plus qu'il aurait laissé sa place dans l'histoire par plusieurs accomplissements réels. Par exemple, la paix avec les pays voisins, tout ça.
Oui, oui, non, effectivement.
Maintenant, on verra la suite des choses.
Il a fait des dommages ailleurs, par exemple. Il a fait des dommages ailleurs.
Beaucoup.
OK, Luc, on se reparle demain, OK?
OK.
Salut. Je m'en vais à la pause. Au retour, on va avoir le grand chef Simon, Serge Otzi Simon, donc le grand chef du Conseil Mohawk de Kanisatake. Et il va nous parler de ce rassemblement qui a eu lieu, hein, un gros party en fin de semaine. Et puis, il n'est pas content. Et puis, il veut reconstituer son corps de police, un corps de police Mohawk à Kanisatake. Alors, le grand chef, après la pause.